Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui relie Kant tout en se trémoussant sur Aya Nakamura.
Allez, hop, on danse.
Allez, allez, on lève les jambes.
Oui, une émission à la croisée des chemins, de l'info et du rire, ou entre deux scuds à mes collègues, je n'oublie jamais l'autodérision. Ça t'en voilà. Autant Eva et Céline disent bêtises sur bêtises à chaque coupure pub, autant moi, il est vraiment difficile d'isoler une phrase ridicule que j'aurais dite hors antenne. Extrêmement difficile. Essentiellement, je crois, parce que je suis quelqu'un de très humble et surtout très proche de mes équipes.
Un deuxième petit café serait bien. Et j'ai vu qu'il y avait des Oreo cookies. Cessez de rire bêtement. Besoin de me nourrir. Je suis un être humain. Pas seulement une star.
Oh Dieu, montage. Heureusement, Debout les copains, c'est aussi de vraies stars comme Fabrice Dalméda. Le monsieur Histoire d'Europe 1 qui ce matin revient sur les 130 ans d'une vieille dame devenue l'emblème de Paris.
Salaud, putain.
Mais non,
enfoiré.
Mais non, Eva, je l'ai pas. Mais non, calmez-vous, j'ai pas fait la vanne. Je l'ai retenue, elle est là au niveau de la glotte. Regardez, j'ai rien dit.
Merci d'écouter Europe 1.
Ah oui, c'est la tour Eiffel dont on parlait Fabrice Dalméda. Parce que sinon, on ne comprend pas. Et oui, c'était ça la fin de la blague. Je me disais, il manque quelque chose. Et oui.
5h, 7h, Mathieu Noël, et il est 6h.
Je suis aussi con à l'antenne qu'en antenne. Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce vendredi 17 mai. Bonjour Céline Kallmann.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin, Céline.
L'anesthésiste de Besançon reste en liberté. Le procureur avait pourtant demandé sa détention après sa nouvelle mise en examen pour 17 cas d'empoisonnement de patients. De la prison ferme requise contre le couple Balkany, poursuivi pour fraude fiscale, le volet blanchiment et corruption sera abordé à partir de lundi. Et puis une carioca géante pour les 25 ans de la Cité de la Peur. Vous entendrez le reportage de Virginie Salmen depuis le Festival de Cannes. Sous contrôle judiciaire mais libre, l'anesthésiste de Besançon ne dormira pas ces jours prochains en prison. Le procureur avait demandé son placement en détention provisoire, mais la décision est tombée cette nuit. Vers 4h du matin, la juge des libertés et de la détention a décidé de ne pas suivre le procureur. Frédéric Péchier a été mis en examen hier soir pour 17 nouveaux cas d'empoisonnement de patients. Au total, il est poursuivi pour 24 cas, dont 9 mortels. Pour l'un de ses avocats, maître Randall Schwerdorfer, c'est la bonne décision qui a été prise cette nuit. Il réagit sur BFM TV.
On n'est qu'au début d'une toute nouvelle procédure et ce qui nous fait peur aujourd'hui, c'est le temps que va prendre ce dossier. Et il nous semblait fondamental que le docteur Péchier puisse rester libre pour sa famille. C'est tout ce qui lui reste. On lui a pris son travail, sa vie professionnelle. Il ne lui reste plus que cette liberté et c'était essentiel de la conserver.
Maître Randall Schwerdorfer, avocat de Frédéric Péchier, l'anesthésiste de Besançon.
Au procès Balkany, les premiers réquisitoires sont tombés hier concernant le volet fraude fiscale.
Le procureur a réclamé 4 ans ferme avec mandat de dépôt à l'encontre de Patrick Balkany. Contre son épouse, 4 ans, dont 2 avec sursis ont été requis. Salomé Legrand, suit ce procès pour Europe 1. Le réquisitoire a momentanément sonné le maire de Levallois.
Ils ont poussé la fraude jusqu'à se faire rembourser des impôts. L'un après l'autre, l'avocat du fisc et le procureur financier ont rappelé cette technique des Balkany de déclarer chacun de leur côté tous les salaires de leurs domestiques afin de bénéficier du crédit d'impôt. Le trop-perçu, 7100 euros, est dérisoire face aux montants en jeu, mais l'anecdote est révélatrice. Les montants, justement, 6 700 000 euros de revenus non déclarés, presque 17 millions d'actifs dissimulés pour un total de 4 millions d'euros d'impôts éludés. Vous êtes un grand fraudeur fiscal, lance le procureur, qui glisse au passage que Jérôme Cahuzac, lui, avait payé sa dette en arrivant au procès. Après la plaidoirie express de son avocat, 30 minutes sur le poujadisme judiciaire à l'encontre d'un homme mort de trouille et bourré de cachets, Patrick Balkany est bien moins flamboyant à la barre. Il marmonne, chuchote presque ses derniers mots. J'ai fait des fautes, mais j'ai trouvé le réquisitoire excessif. J'espère que le tribunal en tiendra compte.
Salomé Legrand, victoire confirmée pour les syndicats de cheminots. La justice a condamné hier en appel la SNCF à payer les jours de repos des grévistes du printemps 2018, alors que le groupe estimait que les 18 jours non consécutifs de grève constituaient un seul mouvement. La SNCF se réserve la possibilité de se pourvoir en cassation. Édouard Philippe a ouvert la voie à des aménagements des 80 km/h, mesure très contestée, mise en place en juillet dernier. Les présidents de conseils départementaux pourraient déroger à la règle nationale s'ils souhaitent prendre leurs responsabilités, a dit le Premier ministre, qui a insisté sur les vies épargnées par le dispositif. L'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve est allé soutenir Raphaël Glucksmann en meeting à Lyon. Il a promis à la gauche d'autres victoires après celle de la liste PS Place Publique pour les européennes.
On Excusez-moi, on vous en parlait hier matin sur Europe 1 et c'est confirmé, un volcan de 800 mètres de haut a bien été découvert sous l'océan au large de Mayotte.
Oui, les scientifiques sont revenus d'une mission en mer et ont donc pu observer ce volcan situé à 50 km seulement des côtes de l'archipel et c'est bien sa naissance qui est à l'origine des 2000 séismes ressentis sur Mayotte depuis un an et qui angoisse la population. Théo Manval.
Il fait 800 mètres de haut, près de 5 km de large et il a donc poussé ce volcan en quelques mois à tout juste 50 km des côtes mahoraises. Pendant leur mission en mer, les scientifiques ont relevé un panache de fluide volcanique s'élevant sur plus de 2 km au-dessus du cratère, explique Eric Humler. Il a coordonné les recherches pour le CNRS.
Alors évidemment, tout ça reste sous l'eau parce que tout ça se passe quand même à 3500 mètres de profondeur. Donc il reste en gros une tranche d'eau de 1000 mètres au-dessus du panache. Après, la question est de savoir, est-ce que c'est un volcan qui va s'éteindre tout seul ? Est-ce que c'est un volcan qui va continuer à grossir ou pas ?
Ce sera l'enjeu des recherches qui continuent, car depuis un an, la naissance de ce volcan a occasionné pas moins de 2000 séismes, jusqu'à 5 par jour. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, annonce donc un plan d'action pour Mayotte. Elle souhaite s'y rendre en début de semaine prochaine.
Dès maintenant, il y a une mission de la sécurité civile qui prend l'avion pour se rendre à Mayotte et qui viendra mettre en place de nouveaux dispositifs de préparation de la gestion de crise.
Renforcer, par exemple, le système d'alerte en cas de tsunami, même si un tel événement paraît très peu probable à ce stade aux scientifiques.
Théo Manval, au Mexique, un journaliste a été assassiné. C'est le cinquième depuis le début de l'année. Le corps de Francisco Romero Diaz a été découvert dans la cité balnéaire de Playa del Carmen, sur la côte caraïbe. Il bénéficiait du système de protection des journalistes. Il travaillait pour des médias locaux. Par ailleurs, la ville de Mexico a annoncé que les écoles resteraient encore fermées aujourd'hui en raison d'un nuage de pollution qui enveloppe la ville depuis 6 jours pour cause d'incendie.
Enfin Céline, j'ai toujours rêvé de vous dire ça. Youpi, dansons la carioca.
Ah, vous le dites bien, c'était l'un des événements hier en marge du Festival de Cannes, une carioca géante pour les 25 ans et de la Cité de la Peur, diffusion du film en plein air. Et le suspense, c'était de savoir si Alain Chabat et Gérard Darmon allaient danser. Virginie Salmen.
Ils ont fait durer le suspense avant le film. Présentation par Dominique Farrugia, Chantal Lobby et Alain Chabat, il en manque un. Sur les transats, sur la plage et jusque sur les rampes d'accès, des milliers de personnes connaissent les répliques par cœur, même les très jeunes. Lucas et Timothée ont 21 et 19 ans.
J'étais super excité avant le début de la séance. C'est un des films de mon enfance. Quoi.
Vous avez même pas 25 ans ?
Ouais, j'ai 21 ans. J'étais même pas né quand il est sorti. Mais j'ai découvert ça avec des potes. C'est devenu la base de mon humour presque.
Et c'est ça qui fascine Gérard Darmon.
Les enfants des enfants connaissent les répliques par cœur. C'est assez touchant, je trouve. Comme si c'était de leur génération, surtout les jeunes.
Et oui, parce qu'il était là, Gérard Darmon, caché derrière l'écran. Et au moment de la scène de la fameuse danse, la carioca, dans le film, coupure écran, incident technique, dit-on au micro. Alain Chabat, trompette à la main, arrive sur scène, suivi de Gérard Darmon. Et il danse pour de vrai la carioca devant un public qui n'attendait que ça.
Ah, le déhanché de Céline Dacosta.
Il y a pas de... À aucun moment, il y a de « ouh » dans la carioca.
Je les imagine sur scène, j'imagine être dans la salle et c'est ce que j'aurais dit à ce moment-là, voilà.
Merci beaucoup. C'était le journal de Céline Kallmann. Alors, je le dis très ouvertement et sans me soucier du fait que son mari potentiellement nous écoute, il y a mille et une raisons pour lesquelles j'aime Céline Kallmann. Son charisme, son aura, son regard, son corps, son talent, ses emportements. Mais quand même, ce que je préfère et de loin, c'est sa folie. Et l'autre jour, en antenne, lorsqu'avec Céline Dacosta, elles nous ont parlé de leur lait préféré, je dois dire qu'elle s'est montrée digne de cet amour.
Moi, j'aime bien le lait d'épeautre avec les céréales.
Sinon, le lait
d'amande douce, le lait d'amande.
Non, le lait...
Le lait de quand tu allaites. Hop, dans l'œil, merde. Peut-être tu l'as déjà goûté ou pas?
Bah oui, bon, je fais une crème de soin.
Je veux dire, vous êtes tellement cinglé que ça en devient sexy.
C'est Céline. Génial.
Vous êtes génial. Merci à vous. Merci à vous.
Europe 1.
5h-7h, Mathieu Noël.
À suivre, c'est historique, le fact-checking par l'histoire. Un des plus grands emblèmes français qui n'a pas toujours fait l'unanimité fête son anniversaire. Maupassant, un peu de culture, Maupassant l'a décrivait comme une pyramide d'échelle de fer, squelette disgracieux et géant dont la base semble faite pour porter un formidable monument de cyclope et qui avorte en un ridicule et mince profil de cheminée d'usine. La tour Eiffel à 130 ans.
Bon réveil à tous, il est 6h09. Il est 6h10, Mathieu Noël.
Et c'est l'heure de faire un point sur le temps du jour avec vous, un temps qui se gâte, Céline.
profiter d'un temps toujours clément avec Rénoval, véranda et abri de piscine. Rénoval vous présente la météo.
J'avais oublié Rénoval. Je mérite le fouet. Céline, le temps se gâte.
Oui, on peut le dire, puisque la pluie est de retour sur toute la moitié sud, particulièrement dans le sud-ouest déjà ce matin, avec des orages qui vont arriver pour toute la moitié sud cet après-midi. Quelques ondes également plus au nord, surtout près des côtes de la Manche cet après-midi. Ciel bien nuageux partout, il restera quand même quelques éclaircies entre la Normandie et l'Alsace quant aux températures. Alors ça baisse sur la moitié sud dans la journée. La moyenne ira de 12 à 16 degrés dans le sud-ouest, 15 à 20 degrés pour les autres, avec quand même encore un 21 degrés à Paris.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Alors qu'il nous a rejoint en studio, il est temps, je crois, mi-mai, de couper court à une légende qui a peut-être complexé nombre de nos auditeurs. Non, notre journaliste sportif Jérôme Lacroix n'a pas vraiment un corps d'Apollon bodybuildé. Et quand on le voit en maillot de bain, non, on ne se dit pas que ses muscles, qu'ils sont hallucinants. Non, on dit...
Oh, ils sont trop mignons.
Ils sont mignons.
Ah ouais, c'est mignon. Voici Jérôme Lacroix pour le Journal des Sports.
Déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. À la une, GG, une alerte bleue.
Rome, un tournoi nommé désert pour les bleus du tennis. Côté garçon, tous les Français sont ce matin éliminés de la compétition italienne. Dernier grand rendez-vous de terre battue avant Roland-Garros.
Ah, la pluie s'est arrêtée alors.
Alors voilà, pas un n'est allé au-delà du deuxième tour. Après qu'hier, effectivement, Jérémy Chardy a été sèchement éliminé par Raphaël Nadal. Son match avait été reporté d'avant-hier à hier. Les autres Français ont tous été sortis au premier tour. Et Roland-Garros, c'est déjà la semaine prochaine, Jean-François Pérez.
Le meilleur depuis le début de l'année, c'est Gaël Monfils, 16e mondial. Mais la manière dont il a sèchement été éliminé par l'Espagnol Ramos interpelle, de même que l'état de son genou. Dans une récente interview, le Parisien donne rendez-vous en demi-finale, porte d'Auteuil. On sait le talentueux Monfils capable de tout, mais le défi relève pour l'instant davantage de la méthode Coué vu le niveau de ses adversaires. On pourrait dire la même chose de Joe Wilfried Tsonga, lui aussi ancien demi-finaliste à Roland-Garros. À 34 ans, le doyen de sa génération dit chercher le déclic, pas forcément le meilleur moment aussi près de l'échéance. Pour le reste, Richard Gasquet semble lutter en permanence avec des problèmes physiques, de même que Gilles Simon. Enfin, Lucas Pouille, la nouvelle locomotive du tennis français, peine à retrouver le niveau qui avait fait de lui un top 10 l'an passé, et ce, malgré l'apport d'Amélie Mauresmo qui l'entraîne au quotidien. Bref, à 9 jours du coup d'envoi, le tennis français est à l'image du site de Roland-Garros, en chantier.
Jean-François Pérez, côté dame. En revanche, Kristina Mladenovic, elle est en quart de finale aujourd'hui. La Française tombeuse hier des 15e et 9e joueuses mondiales en une seule journée. Ben oui, parce que la journée d'hier a été chargée. 55 rencontres se sont tenues au total. Il a fallu rattraper toutes celles annulées la veille à cause de la pluie. Nadal et Djokovic se sont facilement hissés en quart de finale. Un peu plus compliqué pour Federer, hein. Le Suisse a dû sauver 2 balles de match face au Croate Coric, mais il est passé. Le basket est une finale du championnat de France féminin détonnante entre Lattes Montpellier et Lyon-Villeurbanne. Le titre se joue au meilleur des 5 rencontres et ce matin, eh bien, 2 victoires partout entre les deux équipes. Les Héroltais ont égalisé à 2 partout hier soir en s'imposant dans leur salle 91-85 après prolongation. 5e match décisif jeudi prochain à Lyon.
Le foot, Jérôme, et pas de finale pour Théo Zidane.
Le 3e fils de Zizou et les Bleuets échoue aux portes de la finale de l'Euro des moins de 17 ans en Irlande, défaite en demi-finale de 2-1 face aux Italiens. Et puis ce soir, dénouement attendu en Ligue 2, 38e et dernière journée, le Paris FC, Lens et Lorient se disputent les 2 dernières places de barragistes pour tenter de rallier la Ligue 1 en bas de classement. Sochaux va tenter contre Grenoble de se sauver de la relégation. Coup d'envoi 20h45.
On termine avec l'histoire du jour.
Une page de 30 ans qui se tourne dans le foot français, mais surtout à Lille. Vous venez d'entendre la voix tonique et si connue dans le Nord d'Anne-Sophie Roquette. C'est la speakerine, speakeuse, je sais pas trop comment on dit, la speakeuse du LOSC. Qu'elle annonce au micro les compositions d'équipe. Elle fait scander au public les noms des buteurs. Et à 56 ans, eh ben, elle arrête demain soir après Lille-Angers en Ligue 1. Après plus de 600 matchs, c'est une figure locale. Mais c'est une figure tout court. Elle a été la première femme à occuper ce poste, non sans subir au départ des affronts sexistes.
Céline, vous n'avez pas failli être la voix d'un stade?
Non, mais j'avais postulé, je suis arrivée en finale pour être la deuxième avec...
Avec Anne-Sophie Roquette.
Voilà, exactement.
C'était l'info en plus de Céline Dacosta et pour le coup,
elle
c'est vrai.
C'est vraiment très fort.
Vraiment très fort. Merci, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Et Jérôme, on retrouve à présent cet être raffiné. Cet agrégé d'histoire censé incarner l'érudition et la probité intellectuelle, mais qui, l'été approchant, laisse de plus en plus transparaître sa vraie nature et ses vrais modèles. Moins Fernand Braudel que Fernand Reynaud. Hier, par exemple, c'est le mot baguette bien chaude qui l'a plongé dans l'hilarité.
Voir le boulanger pétrir aussi la pâte avec une prédilection pour une baguette toute chaude, tradition française croustillante.
D'Almeida, retenez-vous. Voici venir Fabrice D'Almeida, notre historien.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Delmeda.
Bonjour.
La Tour Eiffel a 130 ans, 130 ans d'histoire, et pourtant, initialement, cet ouvrage n'était pas prévu pour durer.
Ben non, quand elle est inaugurée le 31 mars 1889 et qu'elle accueille ses premiers visiteurs à partir du 15 mai, chacun pense qu'elle ne tiendra pas longtemps, même si son constructeur Gustave Eiffel a obtenu une concession pour 20 ans. Bien sûr, c'est alors la plus haute construction du monde, avec ses 300 mètres et le panorama est fantastique une fois gravi les marches. C'est le symbole de l'industrie et du progrès qui célèbre le centenaire de la Révolution française. Mais à l'époque, les critiques sont nombreuses contre, je cite, « cette gigantesque cheminée noire d'usine écrasant de sa masse barbare ». Notre-Dame disait rien moins que les écrivains Maupassant et le comte de Lille.
Mais les Parisiens s'y sont attachés.
Bah oui, dès 1889, 2 millions de visiteurs l'ont adoptée et bientôt, elle suscite des exploits. Chez les aviateurs, par exemple, en 1901, Santos-Dumont en fait le tour. En 1909, Lambert la survole. En 1926, Léon Collot passe dessous et s'écrase. La tour, elle a été montée en courant en 1905, 3 minutes 12 secondes pour Forestier le vainqueur, à la corde en 1921, par deux alpinistes en 1964, à main nue en 1996, et descendue en vélo en 1923, en moto en 1983, en vol pané, raté en 1912, en base jumping, réussi en 2014, et tant d'autres attractions, éléphants, funambules, bref, je passe.
Et ces fameuses illuminations, quand ont-elles débuté?
Eh ben, en 1925 déjà, André Citroën fait éclairer son nom sur la tour pour l'exposition internationale. L'éclairage intérieur a commencé en 1937, mais évidemment, je sais que vous pensez surtout à 1999, quand ont été installés le phare et le scintillement pour célébrer le passage de l'an 2000 et qui, depuis chaque quart d'heure, nous donne un cœur d'enfant. Ce soir, on communiera avec les 300 millions de visiteurs venus du monde entier qui y sont montés depuis 130 ans. Mais au fait, vous, Mathieu, vous y êtes monté?
Ah, j'y suis monté très récemment avec mon fils, qui avait 6 ans à l'époque, et on était au deuxième étage, il a voulu aller au troisième. J'avais peur qu'il ait le vertige, ben, c'est moi qui ai eu le vertige, j'ai fermé les yeux tout le long entre le deuxième et le troisième étage, il me disait « ça va papa, t'es tout blanc ». Merci beaucoup Fabrice Delmeda, l'histoire à la rescousse de l'actualité, on vous retrouve lundi, peu avant 6h15.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Ne soupirez pas, Eva. C'est des tranches de vie que je veux
oui,
lire.
Je sais, je suis épatée.
Debout les copains continuent. 2 heures d'actu et d'invités qui la font ce matin plus qu'un ami. Un deuxième père pour moi dans ce métier. Guy Carlier sera avec nous pour évoquer la sortie de son livre coécrit avec le docteur Jean-Michel Cohen, moins 125. Je n'ai pas encore osé lui demander. Il y a toujours eu tellement de pudeur entre nous, mais je crois que c'est le nombre de kilos qu'il a perdu durant son régime. Et puis évidemment, Guy Carlier en studio, c'est toujours l'assurance d'un humour de qualité.
Si vous voulez des carottes, c'est râpé.
On a hâte de le retrouver.
Excellent réveil à tous. Il est 6h18. Il est 6h19, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
L'anesthésiste de Besançon laissé libre, le procureur avait demandé qu'il soit placé en détention provisoire après sa nouvelle mise en examen pour 17 cas d'empoisonnement de patients. Il est désormais poursuivi au total pour 24 cas, dont 9 mortels. Le procès Balkany, le parquet national financier a requis 4 ans de prison avec incarcération immédiate contre Patrick Balkany, 4 ans dont 2 fermes contre son épouse. Le tribunal correctionnel de Paris rendra son jugement le 13 septembre. Enfin, vers la fin du remboursement de l'homéopathie, la Haute Autorité de Santé recommande de ne plus rembourser les médicaments homéopathiques dont l'efficacité est mise en doute.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce 17 mai dans notre grande série à 6h20, l'interview d'une personnalité qui fait l'actu mais qui n'est pas du tout un pote dans la vie. Non, j'accueille ce matin Guy Carlier. Bonjour Guy.
Bonjour à tous.
Ouais, bon, c'est vrai qu'avec Guy, on est cul et chemise, qu'on était ensemble à l'antenne la saison dernière et que je lui donne ma carrière, mais il a une actu. L'apparition d'un livre co-signé avec le nutritionniste Jean-Michel Cohen, moins 125, aux éditions du Cherche Midi. Alors, on va jouer franc jeu avec nos auditeurs. Guy, comment on se connaît? C'est vrai qu'on s'est retrouvé hier pour préparer cette interview.
Donc, le dernier mot, je te l'écris, c'est nichon.
C'est bon, j'ai bien noté. Alors bon, Guy, moins 125, soit 125 kilos perdu avec l'aide du docteur Jean-Michel Cohen, soit un demi-carlier, puisque vous avez pesé jusqu'à 250 kilos, c'est ce périple calorique que raconte ce livre. Alors, avant de nous expliquer le secret du docteur Cohen pour vous faire perdre un tel poids, j'aimerais vous poser une question très cash, et peut-être que votre réponse pourra éviter à certains de tomber dans la même spirale que vous à une époque. Comment on en vient à peser 250 kilos ?
Ben on en vient lorsqu'on souffre d'une maladie qui s'appelle la boulimie, qui est une addiction, qui est, je pense, la pire des addictions, parce que autant tu peux te sortir du tabac ou de la drogue en consommant pas, autant t'es obligé de manger.
T'es obligé, oui.
Donc c'est un truc terrible, tu manges comme si on te disait, tiens, t'as le droit de fumer, tu es obligé de fumer une cigarette et demie, et puis après tu arrêtes.
Stop, ouais.
Donc voilà, et en plus, c'est la moins glamour des addictions, je dirais, il y a une espèce de romantisme un peu allemand, tu vois, sur les junkies, l'ouride, tout ça, même les alcooliques, le gros à poil devant son frigo la nuit qui vide, tu vois, éclairé par la lumière du frigo et qui vide le truc comme ça en solitaire. Et j'avais envie de parler de ça parce que pendant longtemps, quand tu souffres de ça, de toute façon, quand tu souffres de n'importe quelle addiction, tu culpabilises. Il y a tout un cycle de honte, de mensonges, de culpabilité, de destruction de l'entourage. Et tu te dis, mais je suis un mauvais, quoi. Donc, c'était surtout pour dire aux gens, non, Jeff, t'es pas tout seul, quoi.
Birgit, comment ça survient, la boulimie? Est-ce qu'il faut un événement déclencheur, psychologique, ou est-ce que ça peut survenir comme ça? La boulimie vous a surprise, ou elle était quelque part logique par rapport à votre situation psychologique de l'époque?
Oui, elle était logique pour des raisons, on ne va pas faire une psychanalyse, mais quand je dis que Jean-Michel Cohen m'a sauvé la vie, c'est-à-dire qu'il m'a fait rentrer dans la clinique des addictions et non pas dans une clinique diététique qui peut éventuellement résoudre des problèmes de légère obésité, mais pas de boulimie, qui est un problème de comportement, enfin d'addiction sévère. Et il a fallu 9 mois, c'est-à-dire le temps d'une grossesse à l'envers, pour que, avec tout un travail psychologique, j'arrive à comprendre et à me sevrer de ces crises. Et évidemment, ce sont comme toujours des choses qui remontent à l'enfance et ça calme, comme toutes les addictions, un sentiment d'abandon ou de vide affectif.
En vous lisant, on comprend que la solution n'était pas justement un énième régime, mais un travail sur vous-même. Vous dites, j'ai tué définitivement le monstre en moi qui réclamait sans cesse de la nourriture. Le jour où j'ai compris qu'avant de dire je t'aime aux autres, je devais d'abord apprendre à m'aimer. Aujourd'hui, vous vous aimez, Guy.
Oui, je m'aime et j'aime. Je suis capable d'aimer les autres. Ce qui se passait, c'est que j'étais boulimique alimentaire, mais boulimique affectif également. C'est-à-dire que dès que je voyais une femme, je pensais que c'était la femme de ma vie, je m'efforçais de la séduire. Et ce qui se passait, c'est qu'en plus, compte tenu du statut, la télé, tout ça, je parvenais à la séduire. C'est-à-dire que j'arrivais à un moment où elle disait « Ah, oh, on oublie ce que tu es ». Et là, je la détestais d'aimer ce que moi, je détestais. C'était pas possible, je lui en voulais de m'aimer. Et donc j'ai fait évidemment beaucoup de dégâts collatéraux.
Est-ce que justement, Guy, vous diriez que cette starisation que vous avez connue dans ces années-là, ça a été un handicap, un frein encore pour sortir de la boulimie?
J'ai rencontré un psy de pacotille qui m'avait dit, j'étais à l'époque directeur financier, qui m'avait dit, je pense que vous devriez faire un métier public et être reconnu, vous avez un besoin de reconnaissance. À l'époque, je pesais 125 kilos, tu vois, c'est un peu chiant quand même. Et j'ai commencé par écrire des chansons, puis il y a eu la radio et ça marcher très vite, etc. Et entre le moment où j'étais directeur financier et où j'ai fait de la télé avec Marco, c'est-à-dire le dimanche soir en
prime,
Marc-Olivier Fogiel, pardon, j'ai doublé mon poids. C'est-à-dire que je suis passé de 125 à 250. Ce qui prouve que c'était pas cette reconnaissance-là dont j'avais besoin, et c'est pas si simple que ça. Mais ça me permettait d'avoir un bénéfice secondaire et de supporter, de pas me foutre en l'air, quoi.
Vous dites, la boulimie entraîne par ailleurs une forme de mythomanie. Vous mentez tout le temps. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? Quel est le lien?
Tous ceux qui souffrent d'une addiction mentent. C'est-à-dire que tu fais croire, si quelqu'un partage ta vie, les séquences où tu arrives à vivre avec quelqu'un, qui sont rares parce que tu es plutôt solitaire, eh bien tu lui mens. Tu manges en cachette, tu manges, tu dis « Ah bah aujourd'hui » et tu arrives presque à te mentir à toi-même.
Oui.
C'est-à-dire que je me souviens que Cohen m'avait dit « Faut noter tout ce que tu manges ». Je disais, je comprends pas, là j'ai fait gaffe cette semaine. Et en fait, si tu notes, tu t'aperçois que tu te mens à toi-même.
Ouais, ouais. Sur la bilan. Eva,
qu'est-ce qui vous rend aujourd'hui heureux, Guy?
De plus être tourmenté Justement par ça, c'est-à-dire que après ces 9 mois, pour aller très vite, le schéma, ça a été 9 mois de dans la clinique des addictions pour arriver à être sevré. Au début, je revenais de l'émission de télé la nuit, je sortais que pour aller faire l'émission, et je revenais la nuit, j'allais chez ce qu'on appelle l'arabe du coin, tu vois, pour acheter des chips et tout. J'avais des crises de boulimie avant de rentrer à la clinique. Ça, c'est drôle aussi. La nuit, il y a un truc à faire sur les épiceries comme ça, ouais, ouverte la nuit, où t'as toute la queue des addicts, le mec qui dit ah ben moi je picole plus depuis 6 mois, mais j'ai des potes de Marseille qui sont de mets-moi 3 bouteilles de Ricard, putain, alors que je veux plus d'alcool. Et le gars, il s'en fout. Bien il sûr. Est là, il calcule son truc et puis il n'en a rien à foutre, mais tu te sens obligé de mentir. Donc, revenir à ça, je suis plus tourmenté, comme j'ai plus de crise de boulimie, je suis plus tourmenté par la bouffe, l'addiction. Voilà, je mange normalement. C'est évidemment, après, il y a eu des opérations qui font que ça a réduit donc l'estomac, enfin, pas rentrer techniquement, mais en tout cas, la satiété arrive très vite, ce qui fait que ça a disparu. Mais il fallait au préalable que je règle ce problème d'addiction.
Merci Guy Carrier d'être venu nous voir ce matin en direct sur Europe 1, ça nous a fait très plaisir. Je rappelle le titre de votre livre coécrit avec Jean-Michel Cohen, -125 aux éditions du Cherche Midi. Et j'aimerais terminer avec une de vos citations les plus fortes. Oula. C'était l'année dernière dans cette émission qu'on faisait ensemble, Rien ne s'oppose à midi, qui était parfois le théâtre de confessions bouleversantes. Voici l'anecdote dite de la Ranger et de la pantoufle. Cruelle métaphore du temps qui passe, Guy.
J'étais à l'armée, je tenais une Ranger à la force d'une érection, mon gars. On faisait des concours dans le dortoir.
Ça fait 7 kilos.
Maintenant, j'arrive avec la pantoufle.
Guy, je vous aime. Et j'ai hâte qu'on se retrouve à l'antenne pour de nouvelles anecdotes de ce calibre, si j'ose dire. Merci, Guy.
Merci à vous.
Europe 1. Il est 6h28, Mathieu Noël.
Debout les copains continuent avec le journal du Michel-Ange de l'Info, David Doucan, puis la météo. Nuages pour tout le monde et pluie pour la moitié sud et près de la Manche cet après-midi.
En 29, Mathieu Noël.
On fait un point sur la météo avec vous, Céline. Comme prévu, le temps se dégrade.
Oui, le retour des nuages et de la pluie, notamment pour la moitié sud. Alors, il pleut déjà pas mal dans le sud-ouest. Des pluies soutenues, des orages vont arriver cet après-midi. De la neige pour les Alpes et les Pyrénées. Pour la moitié nord, on aura encore quelques éclaircies, mais c'est les nuages qui vont gagner la partie. Et puis, quelques averses arriveront près des côtes de la Manche. Quant aux températures, elles baissent cet après-midi, surtout dans le sud-ouest. On va perdre jusqu'à 10 degrés. Ailleurs, la moyenne ira de 16 à 20 degrés.
Merci, Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, tout savoir de l'info sans jamais oublier d'en rire, mais toujours avec le recul journalistique. Cette analyse qui vous garantit un regard juste et pondéré sur l'actu, comme celui d'Eva Rock et Céline Dacosta hier, lorsqu'elles ont découvert en écoutant une auto-promo que Marlène Schiappa serait l'invitée de Carl Zéro dans l'après-midi. Découvrez le café des grands esprits.
Elle a du boulot des fois, ou pas?
Marlène Schiappa?
Ouais.
Qui?
Schiappa.
Heureusement pour l'analyse, la vraie, il y a les trois fantastiques. Politique, économie, médias. Ce matin, on programme notamment une équation qui ne tient pas. 66% des salariés déclarent travailler à côté de salariés gênants. Bruit, odeur, lourdeur.
Non, c'est pas caramba encore raté.
Oui.
C'est carambar encore raté.
Mais 90% des salariés s'estiment être des collègues irréprochables. Cherchez l'erreur.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h31. 5h-7h, Mathieu Noël.
Le journal de 6h30 présenté par David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin.
L'anesthésiste de Besançon reste libre le temps de l'instruction. La décision est tombée en pleine nuit. Il est soupçonné d'avoir empoisonné 24 personnes, dont 9 sont décédées. Vous entendrez la réaction de l'un de ses avocats dès le début de ce journal. Il y a 6 mois, démarrait la pire crise politique des dernières décennies, le fameux 17 novembre, le jour où des citoyens ont décidé d'enfiler le gilet jaune. Depuis, il y a eu la violence, les casseurs et parfois aussi des soupçons de dérapage policier. Nous ferons le point dans ce journal. Si je vous dis Brexit Party, non, ce n'est pas une fête organisée pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, c'est un parti politique créé il y a à peine un mois. Eh bien, il domine la campagne pour les élections européennes au Royaume-Uni. Reportage à suivre.
Europe 1.
Le docteur Frédéric Péchier reste libre, sous contrôle judiciaire, mais libre. Décision du juge cette nuit. Je vous rappelle que cet anesthésiste vient d'être mis en examen pour 17 cas d'empoisonnement. Il faisait déjà depuis 2 ans l'objet d'une instruction pour 7 chefs d'inculpation identiques. En tout, 9 personnes sont décédées. Il risque la perpétuité pour homicide volontaire, mais il n'ira pas en prison le temps de l'enquête. Écoutez l'un de ses avocats, maître Jean-Yves Le Borgne.
Le magistrat a considéré que ni les problèmes de sûreté, c'est-à-dire de présence, de réponse aux convocations de la justice, ni les exigences de l'instruction ne justifiaient une détention. Et c'est la raison pour laquelle un contrôle judiciaire, comme c'était le cas jusqu'alors, depuis 2 ans, a été prononcé. Nous considérons que c'est une bonne décision, c'est celle que nous avions suggérée et qu'elle répond à une certaine sagesse, à une certaine modération, à une certaine objectivité dans l'analyse, et qu'elle se démarque de ce qui pourrait être un emballement judiciaire.
Maître Jean-Yves Le Borgne, l'un des avocats de l'anesthésiste de Besançon, mis en examen pour 24 cas d'empoisonnement. Le procureur du parquet national financier a parlé d'un acharnement à frauder. Il a requis hier 4 ans de prison, dont avec mandat de dépôt contre Patrick Balkany. Mandat de dépôt, cela veut dire qu'on va en prison dès qu'on est condamné. Mais aussi 4 ans, dont 2 fermes pour son épouse Isabelle, et 10 ans d'inéligibilité pour les deux. Le jugement interviendra au mois de septembre. Vous vous souvenez de cette date, le 17 novembre 2018, un peu plus de 200 000 Français enfilaient un gilet jaune et occupaient des ronds-points partout dans le pays pour protester contre la vie chère et en particulier les taxes sur le carburant. C'était le début d'une des pires crises politiques de la Ve République. Elle n'est d'ailleurs pas terminée. La violence est indissociable de ce mouvement. Les casseurs ont maintes fois perpétré leurs méfaits en se servant des manifestations du samedi. Il y a eu aussi des soupçons de dérapage policier. En tout, 249 enquêtes ont été ouvertes par la police des polices. Où en sont-elles ces procédures, Chloé Triomphe?
Parmi ces 249 enquêtes, 72, soit un peu moins d'un tiers, ont été clôturées par la police des polices et transmises aux procureurs qui doivent ensuite décider s'il y a lieu ou non de poursuivre les auteurs. Or, à ce jour, selon la patronne de l'IGPN, une seule réponse leur a été donnée par la justice, en l'occurrence à Toulouse, pour une décision de classement sans suite, d'où ce sentiment de manque de retour de la part des autorités judiciaires et, côté manifestants, le sentiment d'une justice beaucoup moins rapide à traiter les affaires de violences policières que celles des manifestants régulièrement jugés après chaque samedi de manifestation. La réalité est un peu plus complexe. Ces enquêtes demandent du temps, des auditions, des vérifications, l'analyse minutieuse de vidéos. Néanmoins, à Paris, sur la 40aine d'enquêtes déjà bouclées, les magistrats devraient très prochainement annoncer les premières décisions.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. C'est un paradoxe, mais vous le savez, les Britanniques vont devoir voter pour les élections européennes. Ce sera le 23 mai, là. Et ce suffrage va sans doute servir à valider encore un peu plus le Brexit. Le populiste Nigel Farage, qui avait été l'un des ténors de la sortie à l'époque du référendum, a créé un parti pour l'occasion, le Brexit Party. Eh bien, il domine la campagne. Reportage de notre envoyé spécial, Théo Manval.
Il n'existe que depuis 5 semaines, mais le Brexit Party est déjà donné à 34% d'intention de vote. Son leader, Nigel Farage, a levé plus de 2 millions de livres dans une campagne éclair basée sur un seul mot, le Brexit au plus vite.
Nous voulons un Brexit clair et net. C'est ce que le peuple demande, que le vote démocratique soit respecté. Ça suffit, les promesses doivent être tenues.
Un argumentaire qui conquiert les déçus du gouvernement conservateur, mais aussi des électeurs de gauche. Leur ras-le-bol est tel devant le bourbier actuel que Philippe votera pour le Brexit Party. Et pourtant,
j'ai voté contre le Brexit au référendum. Mais la réaction du gouvernement, de l'opposition, les échanges de noms d'oiseaux, ça crée énormément d'insatisfaction. Donc c'est un vote de protestation.
Et qu'importe s'il n'y a pas vraiment de programme, si les candidats, comme cet homme, financier à Londres, ne savent pas vraiment dans quoi ils sont.
De ce que je comprends, on est à Bruxelles du lundi au jeudi. Une semaine par mois aussi à Strasbourg. Mais ça, je suis pas sûr.
De toute façon, avec le Brexit, dit-il, on espère siéger le moins longtemps possible. À Londres, Théo Manval, Europe 1.
Et je reviens en France l'espace d'un instant. Vous l'aviez compris, depuis le début du grand débat national, le gouvernement s'apprête à reculer en race campagne sur les 80 km/h. Édouard Philippe a déclaré hier que les présidents de conseils départementaux auraient le pouvoir de relever la vitesse maximale à 90 sur certains tronçons. Les députés ont d'ailleurs donné cette nuit leur aval en commission.
À suivre dans ce journal, que se passe-t-il avec le Chocobéen ? Carrefour annonce l'arrêt des ventes. Le biscuit de votre enfance va-t-il disparaître ? A tout de suite.
Vous n'avez pas tout lu.
Il est 6h37. Europe 1. Il est 6h38, Mathieu Noël.
La suite du journal David Doucan. Carrefour a décidé de ne plus vendre les chocobéennes.
Oui, c'est un coup dur pour la biscuiterie.
Mathieu, concentrez-vous, parce que sujet sérieux, traitement
mais
sérieux.
Bien sûr.
Biscuiterie nantaise, ça vient de la
voilà,
BN.
Vertoux, pour être précis, près de Nantes. Merci à Axel de Tarlet qui vient de faire son entrée dans ce studio. La marque Lu ne parvient pas à relancer ce gâteau de notre enfance et les salariés sont inquiets. Reportage Pierre-Baptiste Vanzini.
Plus de chocobéennes chez Carrefour, c'est 4000 tonnes de biscuits en moins et des lignes de production qui vont devoir s'arrêter 9 semaines dans l'année au lieu de travailler en continu à la production. Michael Villeneuve est très inquiet.
Clairement, on se demande quel est l'avenir. Donc aujourd'hui, c'est Carrefour. Demain, ce sera quelle grande surface, peut-être Leclerc, Auchan, tout est possible.
Raison invoquée par le distributeur, l'EBN ne se vend plus aussi bien qu'avant. Le producteur devrait essayer de se renouveler, soupire Jérémy Germain, le délégué CGT.
Le chocobéen, il faut le rénover, hein, c'est sûr. C'est vieillissant. On l'a déjà rénové il y a, on va dire, plus de 10 ans maintenant. On lui avait refait un petit sourire. Mais bon, maintenant, faut lui refaire un gros sourire. C'est vrai qu'il y a des générations entières qui ont été élevées avec ce produit, hein, j'ai envie de le dire, élevées carrément. Je ne sais pas si les futures générations auront cette chance-là.
Et pourtant, l'EBN a ses accros comme Marie, 30 ans, qui en mange encore tous les matins.
Heureusement, on a la chance que c'est un bon produit français, donc pourquoi l'arrêter ? C'est dommage. Là, au moins, c'est rapide. Hop, on sort le paquet et hop, on mange le petit BN. Et je compte bien continuer toute ma vie.
Les syndicats vont exercer leur droit d'alerte et demandent à leur maison mère en Turquie de réagir et d'investir pour inventer le choco nouveau. Vertoux, Pierre-Baptiste Vanzini, Europe.
Et maintenant, je vous parle d'un chanteur dont vous êtes fan, Mathieu, Christophe,
qui
sort un nouvel album. Cela s'appelle « Sur Christophe, etc. ». Il reprend ses propres chansons avec Camille, Eddy Mitchell, Étienne Dao. Diane Chénouda a rencontré l'artiste chez lui dans son studio de création à Paris.
Piano noir, des tableaux, des photos, des flippers.
Il y a des jukebox, vous voyez, avec Elvis, Brassens, Lou Ferret, Piaf, de la bonne cam, quoi. Il y a du bordel, surtout, voyez-vous. Il y a du bordel, vous voyez, ce synthétiseur qui est un truc qui date des années 80, qui est vraiment un collector. J'ai vraiment passé des nuits, il m'a fait souffrir, voyez-vous. Il m'a fait souffrir.
Oui, c'est la nuit que Christophe travaille au milieu de tous ses synthés.
La nuit, au lever du jour aussi. En fait, je vais me coucher que lorsque je sens que je tiens plus debout. Alors moi, je suis aujourd'hui là, avec mes synthés, en train de bricoler des trucs qui marchent pas. De toute façon, par les pianos, les percussions, les choses comme ça. Je me considère pas comme un chanteur, comme je crée vraiment du son. Vous voyez, c'est des moments comme ça magiques de revisiter des mélodies, celles que j'ai créées avec des machines comme ça, des ressorts. Vous voyez, ce sont des ressorts qui font du bruit. Inspirant, ce sont des ressorts inspirants, vous voyez.
Il trafique sa voix aussi et tient la nuit grâce à sa passion intacte.
Diane Chénouda du service culture d'Europe 1.
Merci, c'était le journal de David Doucan. Mmh. Un homme d'honneur, un homme marié, mais hélas, la chair est faible. Et Céline Dacosta est si belle qu'entre eux, chaque jour, la tension érotique monte d'un cran. Hier, c'est au détour d'un des fameux regards caméra de David, car oui, David est le seul journaliste radio qui regarde la mini-webcam du studio en lançant ses sujets. C'est à ce moment donc que tout a dérapé.
Il y a des gens, à votre avis, qui regardent ce truc là, sur Internet, non ? Mais pourquoi il n'y a aucune réaction là ?
Fais un striptease, tu vas voir si on n'a pas des réactions.
Ok, ok.
Tu peux commencer par le haut, t'es pas tout de suite obligé de...
Je vois que madame aime faire durer le plaisir.
Elle a peut-être peur.
Ça m'a pas l'air de l'impressionner.
Ah, j'en ai vu d'autres.
Elle en a déroulé du câble.
Bien. Bon, difficile d'enchaîner derrière ce câble, si j'ose dire. Céline, procédons vite à la météo pendant que David gère tous les textos que sa femme doit être en train de lui envoyer.
Voilà. Céline. Et je précise, chérie, que tout ceci n'est qu'une vaste blague.
Oh là là.
De la pluie. De la pluie pour la moitié sud.
De la pluie, de la pluie.
Oui, surtout ce matin et sur le sud-ouest, hein, avec des orages pour cet après-midi. Alors, il va rester quelques éclaircies, notamment pour la moitié nord ce matin. Ça va devenir de plus en plus nuageux dans l'après-midi. On aura même des averses près des côtes de la Manche. Les températures, elles baissent surtout dans le sud-ouest. Ailleurs, la moyenne va rester très douce, hein, 16 à 20 degrés. Il en fera même 21 encore à Paris.
Merci beaucoup, Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
À suivre. Politique, économie, médias, ce matin les trois fantastiques vous entraînent en coulisses du débat sur les 80 km/h avec cette question. Édouard Philippe a-t-il mangé son chapeau ?
Bon réveil à tous, il est 6h42. Il est 6h44, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
L'anesthésiste de Besançon reste libre sous contrôle judiciaire le temps de l'instruction. La décision est tombée en pleine nuit. Le docteur Frédéric Péchier est soupçonné d'avoir empoisonné 24 personnes, dont 9 sont décédées. Le procureur du parquet national financier a parlé d'un acharnement à frauder. Il a recueilli hier 4 ans de prison avec mandat de dépôt contre Patrick Balkany, mais aussi 4 ans dont 2 fermes pour son épouse Isabelle et 10 ans d'inéligibilité pour les deux. Enfin, marche arrière toute. Édouard Philippe a déclaré hier que les présidents de conseils départementaux auraient le pouvoir de relever la vitesse maximale à 90 sur Saint-Tronçon, qui était passé à 80 km/h. Les députés ont d'ailleurs donné cette nuit leur aval en commission.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Chaque matin, quand ils arrivent dans la rédaction d'Europe 1, les autres journalistes s'écartent et forment une haie d'honneur en leur chantant. Voici les trois fantastiques. Eva Rock pour les médias, Axel de Tarlé pour l'économie, Mickaël Darmon pour la politique. Mickaël qui hier nous a passé un savon. C'est vrai qu'on a du mal à respecter l'équilibre des temps de parole des politiques. Alors Céline, voulant bien faire, a cherché à équilibrer.
Ce qui sous Francis Lalanne. Ce qui sous Yannick Jadot. Ce qui sous Nathalie Loiseau. Cui, cui, cui.
Mais comment ça, cui, 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 c'est encore pire. Cui, 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 taisez-vous. Céline, stop. Laissons la politique aux professionnels de la politique. Titre d'ailleurs d'un excellent livre. La politique est un métier dans les coulisses de la machine élyséenne de Mickaël Darmon aux éditions de l'Observatoire. 18 euros chez tous les bons libraires. Oh tiens, Mickaël Darmon, quelle bonne surprise. On commence par la politique avec vous. Le hasard fait bien les choses. La décision de limiter ou pas à 80 km/h les routes départementales sera une prérogative des départements. C'est le premier acte de changement de méthode post-grand débat.
Et oui, vous avez demandé l'acte 2 du quinquennat. Eh bien, ne quittez pas. Voilà la nouvelle méthode. Mettre les collectivités locales au pied du mur. Hein, une décision qui était prise depuis janvier, mais il fallait trouver le bon calendrier parlementaire. Alors vous l'avez dit, la vitesse sera maintenant limitée sur les routes secondaires à la carte, mais selon la carte des territoires. Alors il faut savoir aussi que dans l'histoire secrète de cette décision, eh bien, le transfert de compétences de l'État vers les départements se fait contre l'avis du Sénat, qui avait recommandé que la décision des présidents de département soit également partagée avec les préfets. Étonnante approche hein, quand on sait que les sénateurs sont des pourfendeurs de l'État contre les territoires. Eh bien, Édouard Philippe a dit non, pas question de partager la décision. Ce sont les départements, puisqu'ils le veulent, qui décideront tout seuls donc de relever ou pas la limitation de vitesse. Donc à la question, est-ce que le Premier ministre a mangé son chapeau ? La réponse est sur un bord seulement, parce qu'un fait est quand même incontournable. Hein. La décision n'est quand même pas totalement supprimée. Elle a été aménagée, comme l'avait fortement suggéré Emmanuel Macron quand il avait dit cet hiver, on peut le faire plus intelligemment, une sorte d'indice, et lors de la restitution, effectivement, en avril, des contributions des Français au Grand Palais, eh bien, Édouard Philippe avait acté le changement de méthode.
Mais c'est tout de même une lourde responsabilité qui va désormais incomber au département.
Ah, il n'y avait qu'à observer les petits sourires en coin de quelques responsables gouvernementaux ces derniers jours, à chaque fois qu'on évoquait ce dossier. Ah oui, ça va changer des choses. Il n'y a pas de raison que l'État soit le seul destinataire de la colère des automobilistes. À Matignon, d'ailleurs, on enfonce le clou. Désormais, eh bien, les gens sauront que si c'est 90 ou 80 km heure, c'est une décision du département. Donc hier, on se montrait très détendu dans l'équipe d'Edouard Philippe. La preuve est établie, disait-on, que l'acte 2 s'est préparé entre le président et le Premier ministre. Les réformes continuent. Prochaine étape, retraite et assurance chômage. Au moment d'ailleurs où les départements sont dirigés par la droite, eh bien Edouard Philippe, lui, tire à bout les rouges sur la droite dite Trocadéro, celle de Wauquiez et Bellamy en pleine campagne des européennes. Encore un signal envoyé par Matignon. Traduction, eh bien Edouard Philippe n'a pas mangé son chapeau. Et ce, qui est dans la majorité de table sur son départ de Matignon, eh bien sont pour l'instant plutôt dans leurs petits souliers.
Merci beaucoup, Mickaël Darmon. Et à présent, disputons-nous. Axel de Tarlé, insupportable collègue, 2 salariés sur 3 disent travailler avec des collègues gênants. Nous sommes 5.
Voilà, on va se dire les choses ce matin.
Ouais. Non, je vous écoute.
C'est une enquête très révélatrice qui est réalisée par une agence d'intérim qui s'appelle online, qui s'appelle Capa.fr. C'est très révélateur sur les collègues qui, sans s'en rendre compte, les collègues au travail, se révèlent très gênants pour leur entourage. Bah, y a cette question toute simple. Travaillez-vous avec des collègues qui sont gênants ? Eh bien, la réponse est oui. À 66%. Et les femmes répondent même oui à 71%. Elles sont 71% à dire que leurs collègues sont gênants. Alors maintenant, on va dérouler le menu.
Ah oui,
qu'est-ce
c'est quoi,
qui est
gênant ?
Qu'est-ce qui est gênant chez les collègues ? Alors, il y a beaucoup de choses très gênantes
le
d'ailleurs.
Le en bruit, space, bravo. On est tous en open space, alors c'est le bruit.
Alors, en numéro 1, parce qu'il y a différentes sortes de bruits. Le bruit corporel, je cite l'étude.
Ah oui,
Donc tout.
Mais vous n'avez pas d'effet sonore ?
Tout gaz, éructation.
Donc ça, c'est gaz, éructation. Ah,
le numéro 2, c'est encore le bruit. Donc, mais c'est un bruit différent. Ce sont les discussions téléphoniques privées. Vous voyez, quand on téléphone à sa fille, ses parents, etc. Bon, bref. Numéro 3, les plaintes, les râles et les grognements. Les gens qui se plaignent sans arrêt.
Oh, ben je ne supporte pas les gens qui râlent.
Voilà. Alors, numéro 4, c'est plus gênant.
ce sont les odeurs corporelles.
Ah,
voilà. Et alors, je ne vais pas vous faire toute la liste parce qu'il y a beaucoup de trucs, mais il y a des choses qui m'amusent. Par exemple, en numéro 7, on a dans ce qui est gênant chez le voisin, le look, les postures, la façon de s'habiller. Donc, vous voyez.
Bon, c'est pas gênant.
On travaille à côté de quelqu'un qui est mal habillé. Qu'est-ce que c'est désagréable.
Allez, Vichy, vraiment, je ne peux pas me concentrer.
Voilà, voilà.
Vous avez des noms ?
Alors, voilà. Non, alors ce qui est bien connu, justement, c'est que ce sont toujours les autres qui sont gênants. Parce que maintenant, on pose une autre question à ces mêmes salariés. Vous-même, pensez-vous que vous êtes gênant pour vos collègues ? Réponse, non, à 89%. Alors, pour que ça change, il faudrait se dire les choses, et c'est là qu'est le problème, parce qu'on n'ose pas se dire les choses. Alors, enfin, ça dépend des nuisances. Par exemple, pour ce qui est du bruit, vous avez quand même 21% des gens gênés qui disent à leurs voisins, écoute, pour le bruit corporel, tout gaz, éructation, là, qui ose le dire. Discussion téléphonique privée, 15%. Odeur corporelle, alors là, c'est le tabou suprême.
3%.
Il n'y a que 3%.
Compliqué,
voilà, on n'ose pas dire à quelqu'un qu'il faudrait qu'il aille se laver un peu plus. En revanche, le look, la posture, la façon de s'habiller, là, il y a 13% des gens qui le disent. Voilà, donc soit on se dit les choses, soit on va s'habiller mieux, on se prend une douche, etc. Mais il faut que cela change. C'est pas possible que les 2 salariés sur 3 disent travailler avec des collègues gênants.
Alors Eva, justement, il faut que je vous parle.
Moi aussi.
Je vous parlerai après, parce que là, c'est un peu gênant à l'antenne. Mais bon, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir, Eva ?
Ce sera demain soir sur France 2 à 21h.
Prenez
c'est l'événement de cette fin de semaine. Samedi soir, en direct de Tel Aviv, aura lieu la 64e édition de l'Eurovision. Alors, il y a ceux qui regardent ça comme un rendez-vous un peu kitsch. Et c'est vrai qu'à écouter le candidat... Rappelez-moi votre patrie, Mathieu, c'est quoi ? C'est
la Suisse.
La Suisse, voilà. Ben, musicalement, on peut mieux faire. Voilà. Il s'appelle Lucas Ali, il n'est pas favori, je préfère vous le dire.
Comment ça, il n'est pas favori ?
Non, il est pas favori. En revanche, la candidate pour la Grèce, Catherine Duska, elle pourrait être parmi les gagnantes.
C'est sûr que c'est mieux.
Elle a une plus jolie voix, excusez-moi. Alors oui, l'Eurovision, c'est un peu kitsch, mais pas seulement. C'est aussi un événement politique et c'est pour ça que je vous en parle ce matin. Le candidat italien en sait quelque chose. Alors a priori, rien de spécial dans cette chanson qui est intitulée Soldi, sauf que l'interprète italien donc s'appelle Mahmoud, qu'il est italo-égyptien et qu'il a glissé 3 mots en arabe dans son titre, de quoi énerver Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien, qui avait une nette préférence pour un autre candidat né de 2 parents italiens. Et c'est pas le seul homme politique à être agacé, le gouvernement israélien n'est pas fan du tout du groupe islandais Atahari, donc je vais épargner vos oreilles, mais sachez que la formation clame haut et fort ses convictions politiques dans cette chanson. Ils se disent anticapitalistes, en faveur de la cause palestinienne et contre la politique de l'État hébreu, des prises de position qui a d'ailleurs leur sélection. Quant à la Turquie, elle a décidé de ne pas envoyer de candidat. C'est le directeur général de la chaîne qui diffuse le concours qui a affirmé qu'il n'était pas possible de retransmettre cette soirée à 21h. Les enfants ne sont pas couchés et ils pourraient voir un Autrichien barbu portant une robe, faisant référence à Conchita Wurst, l'ancienne candidate pour l'Autriche, ajoutant que l'Eurovision avait dévié de ses valeurs. Alors autant vous dire que le candidat français Bilal Hassani, qui est drapé dans sa robe blanche, risque d'en agacer plus d'un. Eh bien, c'est tant mieux. Et c'est à voir sur France 2 à 21h demain.
C'était l'édito politique d'Eva Rock. Merci Eva, merci Axel de Tarlé, Mickaël Darmon. Les Trois Fantastiques seront de retour lundi aux alentours de 7h15.
5h-7h, Mathieu Noël.
L'heure du passage de témoins approche, la matinale d'Europe 1 arrive. Debout les copains a chauffé la place à Pierre de Villeneuve, l'ami du petit déjeuner.
Vous êtes peut-être en train de prendre votre petit déjeuner, ça tombe bien, on va parler baguette.
Quand le teaser est aussi fort, c'est généralement qu'il va y avoir de la matière pour un bon débrief.
Excellent réveil à tous, il est 6h53. Il est 6h54, Mathieu Noël.
Debout les copains s'apprêtent à tirer sa révérence, mais vous le savez, le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale de Pierre de Villeneuve, alias The Entertainer. Car vous êtes en mesure de nous l'annoncer, Pierre, ce débrief va être...
du grand spectacle.
Car Pierre de Villeneuve est au journalisme ce que le Nissan Pajero est à l'automobile. Ah, là, un professionnel agile sur tous les terrains. Bien sûr, l'info avec un grand I.
Et on en a beaucoup, des licornes en France.
La vente à domicile.
Pour sécher son linge, on le met soit sur un étendoir, soit on le passe au sèche-linge. J'ai trouvé un nouveau concept de machine qui sèche en moins d'un quart d'heure.
Un quart d'heure, pas 30 minutes, pas 20 minutes, pas 18, un quart d'heure, mesdames et messieurs. Si vous appelez le 3921 avec le code Villeneuve, c'est 30% de réduction supplémentaire qui vous attend. Mais Pierre, c'est aussi, sous la cuirasse du talent, un cœur qui bat. Un altruiste qui aime donner de son temps pour les personnes qui en ont besoin. Ainsi, chaque matin, Pierre passe voir Laurent. La plupart du temps, Laurent ne le voit pas. Dans son peignoir télé-shopping, il fixe l'horizon en prononçant des mots dont lui seul connaît le sens.
La chaleur est raisonnable, les prairies se régalent, les jardins sont fous de joie. Youpi !
Oui, youpi, lui murmure alors Pierre en réajustant le début de sa perfusion de Tronxen, tout en échangeant avec l'aide-soignant un regard résigné. Et sa BA n'est pas finie puisqu'il faudra ensuite se rendre chambre 12 pour saluer David Abiker qui vient de passer à 1500 mg d'Effexor.
Tout fout le camp a commencé par le Choco BN.
Ah, c'est bon de s'engager comme ça pour ceux qui souffrent. Vous avez encore une visite après ?
Dans un instant, le duo Apathy-Tarlier. J'y arrive jamais, c'est Apathé, Tarly...
Bon, de toute façon, eux non plus sont plus en état de faire la différence. Hein. Tarly, empoté, tout ça n'a plus d'importance. Celle qui reste lucide en revanche, Pierre, c'est Céline Dacosta. Céline qui, lorsqu'elle a compris hier que certaines personnes dans ce studio disposaient de place pour Roland-Garros, s'est mise en mode ADDPP. Oui. Au diable ma dignité, je dois pécho les places.
Tu vas y aller Roland-Garros ? T'es invité, t'y vas pas ? Moi, on m'invite pas, moi, Roland Garros. Moi, j'aimerais bien y aller. Ouais, il est invité à la demi-finale homme, il y va pas, il bosse. C'est nominatif, sinon, tes places.
Bien ouais, cousine. Pierre, un dernier mot, une précision.
Il y a juste un truc sur les Dacia que les gens ne savent pas. Que la sécurité passive n'est pas extraordinaire.
Merci Dominique Chabat et bon week-end.
Merci Mathieu Noël. Décidément, on aura le mode d'emploi de tous les véhicules avec vous.
Céline, on continue.
Avec plaisir. Bonjour.
Alors
Pierre.
On y va. Bonjour. Bonjour Laurent Cabrol. Ça va ? Vous êtes chambre 12 ?
Bonjour Laurent.
Bonjour, vous voulez ce quoi ? C'est moi qui ai la parole tout de suite comme
mais
ça ?
Oui, allez, mais oui, France Scratch, allez, on y va.
Oui, ça va, papa. Donc, il fait 6 degrés à Orléans en ce moment, 7 à Strasbourg, 8 en banlieue parisienne.
Pas danser la carioca non plus.
10 à Brest, 11 à Paris et Lille, 12 à Lyon, 13 à Bordeaux et 15 à Montpellier. Cela pour fixer les idées pour tous ceux d'entre vous qui sont en train de s'habiller. Tout à l'heure, je parlerai de l'Alsace qui est très curieuse ce matin. Je vous laisse attendre un petit peu. En ce qui concerne les températures maximales...
Quel suspense.
Oui, mais vous verrez. Alors, en ce qui concerne les températures maximales, nous sommes entre 13 et 21 degrés. Bien sûr, nous avons perdu pas mal de degrés, en tout cas dans les régions du sud, car malheureusement, le mauvais temps est bel et bien là. Ça y est, il pleut sur une grande partie des régions du sud. Aquitaine, Béarn, Pays Basque, Vallée de la Garonne, le Lot, le Massif Pyrénéen, le Tarn, Tarn-et-Garonne, l'Aude, l'Hérault, l'Aveyron. Autant de régions où, à l'heure actuelle, la pluie est là et les orages se préparent, car il y en aura ce soir. Cet après-midi, la pluie va gagner la Provence, la Côte d'Azur, le Massif Central dans son ensemble, la région Rhône-Alpes, la Franche-Comté et la Vallée du Rhône. Vous voyez que franchement, une bonne partie sud de la France sera touchée ce soir. Tout ceci était prévu et tout ceci se confirme, hélas. Poitou-Charentes, Pays de la Loire et Bourgogne, nous sommes dans des régions où le ciel est très nuageux, on peut dire pré-pluvieux, c'est-à-dire que les pluies ne sont pas très loin. Sur le littoral de la Manche, des ondées. Et puis, sur les frontières du Nord, le soleil, un petit peu de soleil sur l'extrême Nord et sur l'Alsace, dont je reparlerai tout à l'heure. En ce qui concerne la couleur du ciel des autres régions, vous l'avez compris, sur la moitié nord, ça va se gâter demain, mais de toute manière, grosso modo, nous gardons presque le même découpage que celui que je viens de vous donner jusqu'à samedi soir. Dimanche, toute la France sera concernée, sauf la Manche.
Merci Laurent Cabrol.
Le prochain point météo, on saura enfin ce qu'il se passe en Alsace. Ce sera juste avant le journal de 7h30.
Mathieu Noël. Tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.